Chapitre 14. Le cottage sur les dunes. Après une nuit d'insomnie, Lady Constance Dex descendit déjeuner avec son frère. Le berlevant Jeremiah Bangley, gros homme jovial qui passait plus de temps à Londres qu'à la cure, ne fut pas légèrement surpris de voir Lady Constance apparaître à la salle à manger à cette heure matinale. Il n'était cependant pas homme à s'étonner facilement. Il était plutôt porté par nature à accueillir les plus extraordinaires événements comme de simples incidents de la vie quotidienne. Néanmoins, son apathie parut tout ébranlée lorsqu'il vit que sa sœur l'avait précédé à la table. « Que vous arrive-t-il, Constance ? Il y a des années que vous n'êtes descendue de si bonne heure. » « Ah, je n'ai pu fermer l'œil de la nuit, » répondit-elle en se servant de jambon. « Je crois que je vais aller écrire un peu à Moor Cottage. » Le révérend fit la moue. « Oh, j'ai toujours pensé, » dit-il, « que M. Farrington n'avait pas été très bien inspiré en vous offrant ce cottage. » Il attendit une réponse qui ne vint pas. Alors il poursuivit. Il est affreusement isolé, tout en haut de la colline, loin de tout passage fréquenté. J'ai souvent peur, ma chère Constance, que vous soyez attaquée là, un jour ou l'autre, par quelques cheminots. Ses craintes étaient légitimes. Moor Cottage, joli chalet d'un étage, avait été construit par le propriétaire de la maison magique. Il devait servir de pavillon d'été, et offrait certes tous les avantages d'une retraite absolue, le chemin qui conduisait n'étant guère fréquenté depuis que l'exploitation des usines de Bradley avait cessé. Plusieurs années auparavant, lorsque de nombreux tunnels passaient sous la lande et la colline, lorsque tout un village de mineurs autour de la haute cheminée d'usine, à moins d'un kilomètre de là, était fort peuplé, Moor Cottage était au centre même des travaux, mais il n'y avait plus d'étain ni de plomb sous ces terres incultes, et le pavillon seul conservait un air coquet et soigné au milieu de l'universel abandon. Le propriétaire de la maison magique avait mis tous ses soins à la construction, à l'aménagement et à l'ameublement du cottage. Puis il l'avait offert à Lady Constance Dex, un moment où lui prodiguait les marques de la plus haute estime. Là, elle trouvait, dans la solitude des petits boudoirs luxueux, ample matière à souvenir. « C'est un peu solitaire, je l'avoue, » dit-elle à son frère. « Mais vous savez que je ne suis pas peureuse, et d'ailleurs je laisserai Brown à proximité. » Le révérend reprit la lecture du Times. Au bout d'un moment, il reposa le journal. « Qui donc est ce monsieur Smith ? » demanda-t-il. « Smith ? Quel Smith ? » « Un détective, je crois, qui nous a honoré plusieurs fois de sa visite. »« Je ne comprends pas. Bon, je veux dire qu'il est venu à Bradley. Est-ce qu'on aurait enfin découvert quelque chose de louche à la maison magique ?»« S'il y avait quelque chose à redire, » répliqua-t-elle, « on le saurait depuis 10 ou 20 ans. » Il haussa ses larges épaules. « Mais pas de bonne opinion de ces constructions trop habiles, » dit-il. Lady Dex se leva, agita la main en signe d'adieu. « Il est rare que tu aies bonne opinion de ce qui sort de l'ordinaire, » répondit-elle en s'approchant de la fenêtre. Elle aperçut la Victoria attelée et le valet Brown imperturbable sur son siège. « Je serai de retour pour le lunch, » dit-elle. Le révérend la vit monter en voiture avec un gros portefeuille sous le bras. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans ce portefeuille se trouvaient les lettres et le journal intime que le docteur Goldworthy avait rapporté du Congo. C'était dans la solitude parfaite de Moor Cottage que Lady Dex retrouvait l'atmosphère enchantée que créaient à nouveau pour elle les phases douloureuses inscrites en lettres de feu dans son cœur. C'était là qu'elle mûrissait à loisir ses ardents projets de vengeance. Moor Cottage était inhabité. Après chacune de ses visites, elle y envoyait des domestiques pour remettre de l'ordre. Elle ouvrit elle-même la porte sous le porche, tout en un guirlandé de roses. « Vous pouvez dételer, » dit-elle à Brown. « Je resterai à peu près 2 heures. » Le valet salua. Il avait l'habitude de ces sortes d'excursions et avait de la patience. Il conduisit la Victoria un peu à l'écart, près de la barrière. Il y avait une petite écurie à l'arrière du cottage, mais on ne s'en servait jamais. Il détela, attacha le cheval à la barrière et s'assit sur l'herbe pour lire à loisir son journal favori. C'était une feuille pleine de potins sur les erreurs et les sottises de ces pauvres gens qui ont le malheur d'avoir des domestiques. Brown n'avait pas la lecture facile et les colonnes de l'indiscret avaient bien de quoi l'occuper 3 ou 4 heures. Au bout d'une heure, cependant, il crut entendre appeler. Il se leva, alla à la porte d'entrée. Là, il écouta, mais n'entendant rien, il retourna s'asseoir. 4 heures durant, il n'eut d'autre sujet de méditation que les désastreux errements des classes dirigeantes, mais il en profitait guère, vu l'absence de plus en plus probable de son linge accoutumé. Sa faim eut enfin raison de sa patience. Il se leva, alla méthodiquement atteler et fit passer ostensiblement la Victoria devant la petite fenêtre du petit salon où se tenait ordinairement Lady Dex. Mais une demi-heure passa encore sans qu'il osât faire de plus ample démonstration. Enfin, il alla frapper à la porte. Pas de réponse. Il heurta de nouveau. Toujours rien. Décidément alarmé, il alla regarder à la fenêtre. Il aperçut de nombreux papiers épars, une chaise renversée et un encrier retourné. Pris de panique, il essaya d'ouvrir la porte. Elle était fermée à l'intérieur. Puis la fenêtre, qu'il trouva également close. Il se préparait à casser une vitre pour pouvoir entrer lorsque le bruit d'un moteur se fit entendre. Une auto s'arrêta devant la porte et M. Smith en descendit. Brown avait déjà vu le détective lors de ses précédentes visites, mais son arrivée soudaine lui parut une bénédiction divine. « Où est Lady Dex ?» demanda vivement M. Smith. L'homme désigna le cottage d'une main tremblante. « Dans le pavillon, dit-il, mais j'ai beau frapper, elle ne répond pas. Et le salon paraît tout en désordre. » Il conduisit le policier à la fenêtre. Après un bref coup d'œil à l'intérieur, M. Smith lui commanda de se reculer un peu. Puis d'un coup de sa canne d'ébonite, il cassa un carreau, fit jouer l'espagnolette et sauta dans la chambre. Il passa rapidement partout, mais n'aperçut nulle part celle qu'il cherchait. Il ramassa sur un tapis un morceau de ruban visiblement arraché à la robe de Lady Dex. « Et ça ?» s'écria Ella, qui l'avait suivi. Il montrait du doigt l'empreinte d'une main ensanglantée sur une des feuilles de papier qui couvrait la table. « Mais c'est Farrington qui a passé par là, » dit M. Smith. « Mais par où est-il sorti ?» Il questionna Brown, qui fut très affirmatif. « Monsieur, dit-il, est absolument impossible que quelqu'un soit sorti du pavillon sans que je l'aie vu. Non seulement je voyais toute la maison de l'endroit où j'étais assis, mais toute la pente de la colline. Y a-t-il quelques recoins où nous n'avons pas à passer ?»« Ben, il y a la remise où nous mettrons la Victoria quand il pleut. » La remise comprenait un emplacement pour la voiture et une petite écurie. Les portes n'étaient pas pourvues de serrure. Il y avait un tas de foin dans un coin. M. Smith s'en approcha. puis tout à coup bondit et saisit au collet un personnage couché dans le foin. « Voulez-vous avoir la bonté de m'expliquer ce que vous faites là ?» demanda-t-il à son prisonnier. Puis il poussa un cri d'étonnement, car l'homme aux yeux lourds de sommeil qu'il tenait n'était autre que Frank Doveton. « C'est une drôle d'histoire que vous me contez là, » dit M. Smith. « Je l'admets, » répondit Frank Doveton. « Et j'ai si sommeil que je ne sais plus bien si je vous raconte mes rêves ou la réalité. Vous m'avez dit, en résumé, que vous aviez été enlevé en auto la nuit dernière à Londres, que l'on vous a conduit hors de la ville durant plusieurs heures, et que vous avez réussi ce matin de bonne heure à sauter hors de la voiture à un moment où elle ralentissait. « Oui, c'est bien cela. » J'ai pas la moindre idée de l'endroit où je me trouve. Pouvez-vous me renseigner? Mais vous êtes tout près de Bradley. Et je m'étonne que vous ne reconnaissiez pas un endroit que vous avez habité. Quelle étrange idée de m'amener ici, s'écria Frank. Oui, il importe en effet de découvrir le motif de cet enlèvement, déclara M. Smith. « Ah !» s'exclama le jeune Doveton, « n'était-ce pas la fameuse maison magique que l'on voulait me conduire ?» Le policier secoua la tête. « Oh, cela m'étonnerait, » dit-il. « Je soupçonne plutôt cet excellent Poltavo d'avoir exécuté cette affaire entièrement de son chef et d'avoir pris cette direction uniquement pour qu'on suspecte les propriétaires de la maison magique. « Mais comment avez-vous fait pour entrer dans la remise ?»« J'étais à bout, » répondit Frank. « Dans un dernier sursaut d'énergie, j'ai réussi à distancer les gens qui me poursuivaient, mais dès que je fus hors de vue, je crus que j'allais tomber comme une masse. J'aperçus ce cottage et, après avoir vainement frappé à la porte, j'allais me jeter sur ce foin dans la remise et m'y endormir instantanément. » M. Smith n'objecta rien à ce récit. C'était une énigme nouvelle qui s'ajoutait à toutes les autres. « Vous n'avez rien entendu pendant que vous reposiez là ?» demanda-t-il encore. « Absolument rien. Je veux dire un bruit de lutte, par exemple, ou le cri de surprise d'une femme. » Il lui conta la disparition mystérieuse de Lady Dex. « Elle est forcément dans la maison, » dit Doveton. Ils revinrent au cottage et reprirent les recherches. Il y avait un étage composé d'une chambre à coucher et d'un cabinet de toilette. Au rez-de-chaussée, deux pièces, un salon et un boudoir contenant un piano. Mais l'exploration la plus minutieuse n'eut aucun résultat. Lady Constance Dex avait disparu, comme si la terre s'était entr'ouverte et refermée sur elle. On ne découvrit de trappe nulle part, et M. Smith en était cette fois absolument déconcerté. « Il est cependant reconnu, » dit-il à son collègue Ella, « que la matière occupe de l'espace. Lady Dex est donc corporellement quelque part. Elle ne peut pas s'être évaporée et dissoute dans l'atmosphère. » « Oh, je ne quitterai pas la place sans l'avoir trouvée. » Et là, réfléchissait profondément. « Vous rappelez-vous, » demanda-t-il tout à coup, « ce médaillon trouvé sur l'un des deux cadavres à Brackley Square ?»« Oui, » dit M. Smith, tirant l'objet de sa poche. « Voulez-vous que nous regardions de nouveau l'inscription qu'il contenait ?» Ils s'approchèrent d'une fenêtre et examinèrent ensemble les mots « Mort, Cot, God save the king ». « Ben, il me semble qu'il a là un indice, » dit Ella. « Vous voyez que les deux premiers mots désignent très probablement Moore Cottage. »« En effet, » s'écria M. Smith, « je n'avais pas encore songé à cela. Cet homme avait découvert un secret concernant cette maison. » Et c'était cela qu'il tâchait de revendre à Farrington. Mais quant à la seconde ligne, j'avoue que je n'en vois pas la signification. Elle veut certainement dire quelque chose aussi, affirma Ella. Vous voyez qu'il manque une lettre au second mot, et que King est orthographié King. Les deux policiers attendirent l'arrivée du révérend que le cocher Brown était allé chercher. Monsieur Jérémia Bangley ne paraissait pas fort alarmé. J'ai souvent averti ma sœur du danger qu'il y avait à venir seul ici, déclara-t-il. Vous ne songez à aucune explication possible? Le révérend secoua la tête. Il connaissait à peine le cottage où il n'avait pour ainsi dire jamais mis les pieds. C'était un homme fort peu curieux et qui prenait rarement la peine de s'occuper des affaires d'autrui. La police locale arriva peu après. Je présume qu'il convient de conserver ce jeune homme à notre disposition, dit le chef du poste de Bradley. Oh, pourquoi faire? Demanda M. Smith. Que gagnerons-nous à l'arrêter? Rien ne l'implique dans cette affaire et je suis prêt à me porter moi-même garant de sa bonne foi. Puis, s'adressant à Dawson lui-même, il reprit. Ce que vous avez de mieux à faire, mon ami, c'est de rentrer à Londres. Vous avez besoin de repos. Tout cela n'est pas un plaisant prélude à votre mariage, qui doit avoir lieu demain, n'est-ce pas? Oui, dit Frank. Je me demande si le guet-apens dont vous venez d'être l'objet a quelque chose à faire avec votre mariage. Connaissez-vous quelqu'un qui ait intérêt à l'empêcher? Frank hésita. Bon, je n'aime pas porter des accusations à la légère, dit-il enfin, mais je crois que Paul Tavo. Eh bien, Paul Tavo. Oui, il semble que Miss Gray ne lui est pas indifférente. C'est à contre-cœur qu'il mêlait le nom de Doris à cette affaire, mais il fallait bien tâcher de seconder les efforts du sympathique chef de la sûreté. En effet, dit ce dernier, Paul Tavo avait avantage à vous éloigner. Dites-moi exactement ce qui s'est passé dans l'auto. Frank relata brièvement les circonstances dans lesquelles sa capture s'était produite. Mais il y avait deux hommes dans la voiture, dit-il en terminant. Et dès que je me vis là, je me dis que j'avais peu de chance d'échapper. L'auto allait à une vitesse incroyable, malgré les signaux des agents. Et dès qu'on fut dans les faubourgs, mes deux geôliers baissèrent les rideaux et s'éclairèrent à l'intérieur avec une petite lampe électrique. Ils étaient tous deux masqués. Oh, c'étaient des étrangers, je crois. L'un ne cessa de tenir à la main un gros revolver dont il semblait bien qu'il se serait servi si j'avais résisté. Je ne pus donc me rendre compte de la direction prise, mais après un long parcours, ils ouvrirent une des glaces sans lever le rideau, de sorte que je pus sentir nettement l'odeur des champs, de la vraie campagne. Nous étions donc déjà fort loin de Londres. J'ai dû m'assoupir dans l'auto, car il me sembla que le jour s'était levé subitement. J'eus la bonne idée de feindre de dormir encore. Entre mes paupières mi-closes, je vis que l'homme au revolver somnolait et que l'autre ronflait. Je me rendis compte des chances qui s'offraient. L'auto allait beaucoup plus doucement maintenant. À chaque portière, il y avait une poignée, mais il était certainement plus facile de manœuvrer celle dont j'étais le plus près. Quoique l'homme armé en fût aussi proche, étant ainsi devant moi. Alors je me décidai, bondis de côté, ouvris et me jetai dehors en un clin d'œil. Je suis heureusement très habitué à descendre des autobus en marche. Je me trouvai dans les champs découverts et instinctivement je me dirigeai vers un bouquet d'arbres que j'apercevais à un demi-mille environ. Fort heureusement pour moi, le terrain, qui paraissait uni, était en réalité légèrement ondulé, de sorte que je fus hors de vue avant que les deux gardiens aient eu le temps de faire comprendre la situation au chauffeur qui devait être lui-même à moitié endormi. Et comme je courais toujours, je m'exposais un instant de nouveau à leur vue. Ils me tirèrent un coup de feu sans m'atteindre. Mais je les dépistais, leur poursuite cessa. C'est alors que j'aperçus ce pavillon. C'est tout. Le révérend et Doveton retournèrent ensemble à Bradley, laissant M. Smith poursuivre ses investigations. Elles n'apportèrent malheureusement aucun nouvel indice. « La seule supposition admissible, dit enfin le détective, c'est que Lady Dex soit glissée sans le moindre bruit hors du cottage et se soit éloignée tout doucement pendant que Brown lisait. Elle est peut-être tranquillement rentrée à la cure. Mais M. Smith ne se satisfaisait pas si aisément. Il sentait au fond de lui-même que cet espoir-là était vain. Les portes fermées à l'intérieur, l'empreinte sanglante sur la table, le désordre de la pièce où avait travaillé Lady Dex, tout disait qu'une scène tragique s'était déroulée là. Quoi qu'il en soit, Lady Dex est quelque part dans un rayon de 4000, dit gravement. Et je la retrouverai, même s'il fallait démolir la maison magique pierre par pierre.